Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque semaine pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et c'est une. Et quelle occasion pour une émission de Torah et de pensée juive. Ce soir, c'est Shabbat, évidemment, le plus beau jour de la semaine. Mais c'est aussi la veille de Shavuot. Shavuot qui va commencer précisément demain soir, samedi. Pour deux jours, nous qui habitons en diaspora. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Bonsoir, Rav Eli Lemel. Shabbat shalom, Chag Sameach.
Shabbat shalom et Chag Sameach.
On va faire une émission spéciale Shavuot. Même si je vous connais et je suis certain que vous allez faire des digressions à la fois dans notre paracha qui est Bamidbar cette semaine et Shavuot, c'est certain. D'ailleurs, j'ai appris de vous que les parachiotes vont toujours plus ou moins avec leur calendrier. Il n'y a jamais de hasard, ça c'est sûr que non, mais il n'y a même pas de décalage. Ça va ensemble. Toujours est-il qu'on va parler du don de la Torah. Après la sortie d'Égypte arrive Shavuot, après Pessah arrive le don de la Torah dans le désert. Et c'est sur ce point-là que vous voulez intervenir. C'est très... Pourquoi le désert ? Le désert, c'est l'endroit où je suis seul, donc j'imagine que je dois recevoir les choses un peu différemment quand même. Si je suis seul vis-à-vis de moi-même, alors que pourtant la Torah, c'est aussi beaucoup de relations interhumaines. Donc c'est là où on va vous écouter avec beaucoup d'intérêt. Et puis le désert, peut-être c'est le début de quelque chose, peut-être, puisqu'il n'y a rien. On vous attend et on vous écoute avec impatience, Rav Eli Lemel.
Oui, en effet, c'est vrai que la Torah d'abord est donnée Bamidbar Sinaï, elle est donnée dans le désert du Sinaï. On est la paracha dans laquelle on nous parle de... Midbar aussi, le Bamidbar, dans le désert, et évidemment, vous doutez bien que si la Torah, à chaque fois, nous précise où les choses se passent, c'est que ça a une incidence très très forte par rapport à notre sujet. Alors, tout d'abord, le désert, dans le moment de la révélation, il y a un texte de Maïmonide très intéressant qui dit qu'il y a Shloshak Tarim, qu'il y a trois couronnes. Et il y a deux couronnes, c'est celle de la royauté, celle de la prêtrise. Celles-là ne sont accessibles qu'à très peu de gens. Et puis il y a presque ce que l'on appelle Keter Torah. La couronne de la Torah, et celle-là, eh bien, Kolmish et Retzelitol Yavoveitol, tout celui qui veut l'apprendre, eh bien, peut venir et l'apprendre. Pourquoi ? Parce que justement, la Torah était donnée dans le désert. Elle est dans le désert, c'est-à-dire un endroit qui, a priori, même si aujourd'hui on sait qu'il y a des conflits à propos des déserts, surtout s'il y a des réserves de pétrole ou de gaz, mais sinon, le désert, c'est le lieu du Hefker, un lieu qui appartient au fond à tout le monde, parce qu'a priori, circuler, il n'y a pas grand-chose à prendre. Eh bien, la Torah, voilà, elle est dans le désert, traduction, elle est à disposition de tout le monde peut y avoir accès. Il n'y a pas ici de privilège particulier, plus que ça, il y a un texte dans le traité de Nedarim qui nous dit la chose suivante, « Izharum ibnanim, faites attention aux enfants des familles pauvres, chez Mehem Tetsetora, parce que la Torah souvent sortira de chez eux. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, ils n'ont pas de temps à perdre dans les magasins puisqu'ils n'ont pas de quoi dépenser quoi que ce soit. Eh bien, c'est eux qui vont pouvoir justement se consacrer à l'étude et au fond, eh bien, ils y ont accès comme tout le monde. Ça, c'est déjà le premier point. Et c'est important parce que souvent, les personnes vont dire « Oui, non, mais moi, vous comprenez, je ne peux pas avoir accès, c'est trop complexe, et puis c'est réservé. » Non, non, la Torah n'est pas réservée à une élite. Loin s'en faut. Et ça, je crois que c'est déjà ce premier point. En dehors de ça, eh bien, nos maîtres nous disent « Le Midbar, le désert, eh bien, c'est le lieu dans lequel... » Qu'est-ce qu'on fait dans le désert ? On marche. On marche, c'est-à-dire le désert, au fond, est sans arrêt... j'ai envie de dire piétiner, puisque en dehors de le piétiner, il ne se passe rien. Eh bien, nos maîtres de dire aussi que voilà, la Torah ne peut véritablement émerger que chez celui qui n'a pas peur de se laisser piétiner. Alors, qu'on soit bien clair, hein, ce n'est pas une histoire de seconde joue, surtout pas. Mais au fond, étudier, c'est à un moment être capable de supporter les quolibets des autres, de ceux qui, au fond, ne voient dans les études que ce qui va pouvoir permettre de produire un savoir qui va surtout produire eh bien, une économie ou des choses comme ça. Et la connaissance de la Torah, en tant que telle, a une valeur. On ne regarde pas ce qu'elle va produire de manière sonnante et trébuchante. Elle a une valeur en tant que telle. Eh bien, souvent, on est dans des situations chez Hakol d'Hashimbo dans lesquelles les gens, au fond, méprisent un petit peu, ils écrasent. Pourquoi ? Parce qu'au fond, cet étudiant en Torah, qu'est-ce qu'il représente réellement ? Et puis, c'est aussi cette idée d'humilité, de vitour, de savoir renoncer. Vous savez, on ne peut pas étudier, dit un grand maître à Volbeuf, si on n'est pas capable de savoir, au sens premier du terme, hein, bien sûr, pas au sens un peu léger, s'écraser, c'est-à-dire accepter à un moment de mettre de côté sa propre pensée pour écouter la pensée de l'autre, ne pas avoir peur que ce que nous mettions en exergue au niveau de notre pensée bien soit piétiné par une pensée différente. Ça, c'est aussi le Midbar. Et puis, comme vous le disiez parfaitement au début, le Midbar, c'est aussi un lieu dans lequel, eh bien, allez, on est légèrement seul dans le désert généralement. Au fond, c'est le lieu qui nous dit que pour acquérir la Torah, il ne faut pas chercher sans arrêt à voir ce qui se passe autour de nous. D'ailleurs, le texte va nous le dire, Zot HaTorah, Adam Kamud Boel, voici la Torah. Lorsqu'un homme va périr dans sa tente, alors là-bas il s'agit des lois de pureté et d'impureté, mais l'autre lecture, disent nos maîtres, c'est quelqu'un qui est capable littéralement d'être comme un mort au moment où il étudie la Torah. Quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui est totalement indifférent au monde qui l'entoure. C'est quelqu'un qui n'est pas impacté par le monde. Eh bien, c'est la même chose. Le Midbar, c'est le lieu dans lequel, au fond, on n'est pas vraiment... Alors, j'ai pas envie de dire on n'est pas en société parce que ça nous laisserait penser que celui qui étudie doit se déconnecter de la société, alors qu'au contraire, il doit transporter sa Torah dans la société. Mais dans sa tête, sa démarche, eh bien, ne doit pas se faire fonction de ce que l'on pensera de lui. Traduit d'une manière différente, il ne va pas adapter son discours de Torah en fonction de ce qui est politiquement correct. Il va chercher à l'intérieur d'elle ce qu'elle a à lui dire. Et je crois que c'est un petit peu ça aussi, au fond, un des éléments très très forts dans le désert. Vous savez, le désert, c'est un lieu dans lequel les points de référence sont difficiles à trouver lorsque l'on est perdu dans le désert. Eh bien, trouver des points de référence, une dune de sable ressemble à une autre dune de sable. Et comment vous faites quand vous êtes perdu? Ça doit être compliqué. Eh bien, c'est aussi cela, disent nos maîtres. La Torah et le désert, c'est quoi? C'est qu'au fond, lorsque l'on veut accéder au savoir de la Torah, il faut mettre de côté toutes ces anciennes références. J'ai envie d'utiliser cette expression, il faut se revirginiser l'esprit. C'est-à-dire, arriver face au texte, et se dire, mais au fond, voilà un texte qui va me dire, qui va me donner les définitions, qui va m'expliquer c'est quoi la vie, c'est quoi le couple, c'est quoi l'argent, c'est quoi la réussite. Enfin, toutes ces notions avec lesquelles on se promène au quotidien, eh bien, la Torah, c'est elle qui va me donner les définitions. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce que la Torah, c'est un savoir, mais pas qu'un savoir, c'est aussi une vision du monde dans tout les domaines, quels qu'ils soient, eh bien, il faut aller dans ce désert, c'est-à-dire faire abstraction de toutes ces anciennes références. Et vous savez, surtout, beaucoup de personnes essayent de comprendre la Torah à travers leur définition des choses. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être faire sauter en l'air les gens, mais ce n'est pas grave. La Torah, au fond, ce n'est pas la démocratie. Parce que dans la démocratie, eh bien, chacun pense, chacun dit. Alors vous avez des gens qui disent « Non, mais moi je considère que la Torah, et moi je considère que la Torah, et moi je considère que la Torah. » Et puis au fond, eh bien, chacun devient sa propre référence. Et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu de l'étude, et c'est pour cela qu'il y a quelque chose de fondamental dans la transmission, c'est le rapport au maître, le rapport à l'enseignant, le rapport à celui qui lui-même a reçu de ses maîtres et qui transmet à son tour. Et c'est ça aussi qu'on va chercher dans ce désert. On va chercher un élément qui va nous permettre de mieux comprendre, de mieux définir les choses, et de se dire, mais au fond, voilà, moi, ce qui m'intéresse en tant que juif, c'est avoir une vision Torah de l'existence. Comment la Torah voit-elle la vie? Comment la Torah définit-elle les choses? Et à partir de là, avancer, construire et se développer. Alors, comme vous le voyez, il y a Il y a ici quand même un sacré programme, évidemment, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on se retrouve eh bien, dans cette fameuse nuit de Shavuot en train d'apprendre, parce qu'il y a tellement, tellement de choses à découvrir. Et j'ai le bonheur, et c'est vrai que c'est un bonheur et un privilège de pouvoir enseigner. Et je crois qu'une des choses les plus merveilleuses, c'est lorsque eh bien, vous partagez une connaissance, vous partagez un savoir, et que les personnes eh bien, qui le découvrent réalisent qu'au fond, la Torah, c'est bien au-delà de ce qu'elles avaient imaginé, qu'elle est là, qu'elle parle de tout, qu'elle évoque toutes les problématiques, et que surtout, on ne va pas chercher, et ça j'insiste beaucoup, à l'adapter à l'ère du temps. On ne va pas chercher à lui faire dire ce qui aujourd'hui est politiquement correct. On ne va pas l'instrumentaliser au profit de sa propre histoire, mais tout simplement, comme le disait un de mes maîtres, eh bien, on va être prêt à se laisser bouleverser par son message. Alors après, comment est-ce qu'on va l'intégrer dans notre vie? Comment est-ce qu'on va faire en telle sorte de vivre avec? Ça, c'est déjà encore un autre sujet. Mais être prêt à se laisser interpeller, être prêt à se laisser bouleverser, être prêt à ce que ce texte eh bien, soit et devienne notre référence. Voilà un petit peu tout l'enjeu de Shavuot. Et donc, pas inintéressant de voir que cette année, eh bien, Shavuot, c'est juste à côté de Bamidbar pour nous rappeler encore plus cette dimension fondamentale, l'inscrire profondément à l'intérieur de nous. Et puis à partir de cela, eh bien, continuer à apprendre et surtout à partager et à transmettre.
Bien, on va s'y essayer. On a donc toute la soirée ce soir pour se remémorer ce que vous avez dit, en parler à table, etc. Après, on aura la nuit d'études. Et j'adore cette expression quand on dit « c'est sa Torah ». Parce qu'il n'y a qu'une Torah. Mais des érudits comme vous peuvent utiliser en disant « c'est ma Torah » ou « c'est la Torah du Rambam » par exemple. Il faut savoir l'utiliser. J'adore, moi, quand j'entends cette expression. Je trouve ça délicieux. Pardon ?
Alors, c'est vrai que ce que vous dites correspond à un verset, puisque c'est le verset qui dit « Ki im betorat Hashem cheftso ou betorato yegeyem abalai » On dit « Si c'est la personne a le désir véritablement de la Torah d'Hashem, alors Torato, c'est dans sa Torah à lui qu'il va apprendre au quotidien. » C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, eh bien, cette Torah, on se l'approprie. Mais, et je reviens encore toujours, pour ça, il faut d'abord avoir eu des maîtres. Pour ça, il faut toujours avoir des maîtres. Pour ça, il faut se rappeler qu'on a toujours besoin d'avoir justement cette chaîne de transmission qui est fondamentale pour être sûr que même lorsque l'on fait émerger dans la Torah, dans notre étude, dans l'étude de chacun de nouveaux éclats, de nouvelles facettes, qu'elles s'inscrivent pleinement dans le regard global de la Torah sur tous les domaines de la vie.
Eh bien, Rav Eli Lemel, on va s'y attacher. Il y a vraiment, comme vous disiez tout à l'heure, tout un programme. Merci à vous. Shabbat Shalom et Chag Sameach.
Shabbat Shalom, Chag Sameach. Et puis allez, pour les Ashkenazes, on va aussi dire Gut Yom Tov.
Gut Yom Tov, avec plaisir. Bien sûr. et Gut Shabbos. Bonsoir à vous, voilà. Rav Eli Lemel. Mordechai Biton nous a rejoint à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai, Chag Sameach, Shabbat Shalom.
Chag Sameach, Shabbat Shalom.
De bonnes fêtes, de bien chaleureuses, bienveillantes, c'est un bon Shabbat. Et on continue avec vous notre réflexion sur Shavuot. Et vous, vous partez d'un constat qui est que on sait que les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, les pères du peuple juif, respecter déjà la Torah. C'est un enseignement. On nous a appris ça. Mais là, à Shavuot, on va fêter, on va célébrer, on va revivre la don de la Torah. Mais elle était déjà révélée ou pas? Est-ce qu'ils, je sais pas, ils avaient une intuition ou... Comment se fait-il qu'on dise les deux choses? Qu'il y avait donc déjà très concrètement des êtres humains, des juifs qui faisaient cette Torah? Et après, on nous dit qu'elle est révélée, qu'elle est donnée seulement après leur départ de terre, d'ailleurs, dans leur disparition de cette terre. Il y a une apparente contradiction. Comme d'habitude, quand il y a une apparente contradiction, il y a toute une source d'enseignement extraordinaire. Donc, c'est un peu le point de départ de votre réflexion de ce soir.
Absolument. Alors, on va passer la veillée de Shavuot et on va étudier, on va lire les textes, les fameux tikkun, tous les textes qu'on doit lire jusqu'à à peu près au milieu de la nuit. On peut les lire pendant toute la nuit, puis ensuite après on peut étudier et on va se préparer au matin à revivre le don de la Torah. Car d'abord, avant de commencer ma réflexion, un point, il faut savoir que les fêtes juives ne sont pas des commémorations, mais un revécu des occurrences spirituelles et des forces spirituelles qui ont permis à l'événement d'arriver. C'est-à-dire que, par exemple, le soir du Seder, on ressort d'Égypte. Les mêmes forces spirituelles qui nous ont permis de sortir d'Égypte et de sortir l'Égypte de nous-mêmes, elles se représentent à nouveau. Et c'est la même chose pour Shavuot. On reçoit à nouveau la Torah. Petite ségoula aussi au passage, c'est que nos sages nous enseignent dans le Midrash que les Bnei Israël sont tous redevenus en bonne santé au moment où ils ont reçu la Torah. Hachem a guéri tous les malades. Il y a donc une ségoula bien connue de prier pour la refoua, la guérison des malades, juste avant le don de la Torah, et juste avant la lecture du don de la Torah, et juste après le don de la Torah. Je referme ici la parenthèse. Et partons maintenant sur cette révélation. Oui, effectivement, dans le Zohar, Parashat Trouba, dans la mystique juive donc, il est écrit que Kadosh Baruch Hu a regardé dans la Torah et a créé le monde. Ce qui signifie que la Torah est présente à l'état intuitif dans la création elle-même, et donc évidemment, chez les plus grands tzadikim, les plus grands justes de l'histoire de l'humanité, ou du peuple juif, qui dès l'aube de l'humanité vont étudier la Torah. Adam Harishon a étudié la Torah, Mathusalem en français, Metushelach a étudié la Torah, Noach l'a étudié, ses enfants Shem et Ever avaient des yeshivot dans lesquels ils étudiaient la Torah, Avraham va les rencontrer, étudier la Torah avec eux, Yitzhak également, il va étudier, Yaakov lorsqu'il s'enfuit de devant Esav va passer 14 ans dans la yeshiva de Shem et Ever avant de partir affronter la vanne, ce qui signifie que la Torah est présente. Alors de quelle Torah on parle ? Ce n'est pas une Torah intuitive, bien que effectivement vous avez raison, il est écrit qu'Avraham Avinu a appris la Torah par ses reins. Manière de nous dire qu'il était tellement en connexion avec le divin que de manière intuitive, il possédait déjà les règles de la Torah, elles vont lui être révélées progressivement, et c'est ainsi que la Gemara dans Yoma va nous dire qu'Avraham a tout observé l'ensemble de la Torah, y compris des lois d'ordonnance rabbinique. Donc le Chevet Lévi, par exemple, la tribu de Lévi, va, elle, être une tribu qui étudie également la Torah. Donc il y a une connaissance de la Torah depuis l'aube de l'humanité, parce que la Torah est intrinsèquement liée à la création elle-même. Ça, c'est en quelque sorte la Torah qui est donnée aux grands tzadikim de l'humanité, aux grands dirigeants, aux grands pères fondateurs du peuple juif, à la fois depuis Adam Harishon, parce qu'elle lui est révélée par Hachem, c'est une connaissance de la Torah, c'est une connaissance des lois de la création, en quelque sorte, et elle va voyager comme ça jusqu'à Abraham Avinu, ses enfants, jusqu'au peuple juif, mais au don de la Torah, il se passe autre chose. Au don de la Torah, il se passe qu'il y a un brit, une relation entre Hachem et le peuple juif. Hachem dit la chose suivante. Le peuple juif, c'est le peuple qui va porter ma Torah, le peuple juif devient éternel. C'est le premier point, c'est ce qui se joue au Arsinaï. À partir du moment où Am Israël reçoit la Torah, il a en quelque sorte un lien avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, et ce lien rend ce peuple éternel. Notre peuple est éternel, il est indestructible. La vie à tous les amateurs, les éternels futurs perdants qui se lèvent dans chaque génération pour essayer d'en finir avec les Juifs, ça ne marche pas. Avis aux éternels perdants qui se lèvent même à l'intérieur du peuple juif pour en terminer avec l'étude de la Torah et avec la Torah, ça ne marche jamais, parce que la Torah, c'est le passeport pour l'éternité. C'est le brit, c'est l'alliance. Ça, c'est la première chose qui se joue. La deuxième chose qui se joue, c'est ce fameux Naaseh Venishma. Les Bnei Israël, lorsqu'ils reçoivent la Torah, déclarent leur intention d'observer la Torah avant même de l'avoir collectivement étudiée dans le moindre de ses détails. C'est-à-dire qu'ils disent la chose suivante. Ils disent: notre adhésion à la Torah ne dépend pas de la connaissance de la Torah. Notre adhésion, elle dépend de notre volonté d'adhérer à la Torah. Et cette démarche-là est une démarche qui n'est pas humaine. D'ailleurs, la Gemara dans Shabbat va dire « Mais qui a révélé à mon peuple ce secret dont seuls les anges profitent ?» Seuls les anges, seules les créatures divines, qui vivent, les créatures célestes, connaissent ce secret selon lequel le lien authentique du peuple juif avec la Torah passe par ce Naaseh Venishma, c'est-à-dire cette volonté d'accomplir avant même d'avoir étudié la Torah. Et ça, c'est un point qui est aussi tout à fait fondamental, ce qui se joue à partir de là et qui va passer dans les gènes du peuple juif jusqu'à nos jours aujourd'hui, c'est qu'il y a un nitzot, c'est là qu'il y a une étincelle de divinité et même une âme divine en chacun d'entre nous, qui fait qu'il y a cette fois-ci un lien intrinsèque. Ce n'est pas seulement un lien intuitif, c'est un lien intrinsèque qui est lié même à notre personne avec le Créateur. Nous avons en nous une parcelle divine. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'à partir du Har Sinaï, eh bien, la Torah n'est plus dans le ciel. Torah lo bashamayim e. La Torah n'est pas dans le ciel, elle est donnée aux hommes. Et donc les hommes vont l'étudier, et ça va fonder notamment toute la démarche qui, contrairement à ce qu'on pense, ne démarre pas à l'époque du Second Temple, il y a environ 2500 ans, mais elle démarre dès que les Juifs sont dans le désert et reçoivent la Torah, qui est la démarche de la Torah orale. La démarche de la Torah orale, c'est une démarche qui consiste à extraire de chaque verset, de chaque mot, le sens caché de chaque mot. Par exemple, dans le désert, les gens qui sont impurs, qui ont une impureté rituelle parce qu'ils transportent le corps de Yosef Hatzadik, ne peuvent pas faire le sacrifice de Pessah. Ils vont aller demander à Moshe, à Moïse, quelle est la loi dans ce cas-là. Ils vont révéler un pan du savoir de la Torah orale. C'est-à-dire que la Torah orale est née avec avec la Torah orale, c'est-à-dire la recherche d'adhésion, la recherche de profondeur, de connaissance en profondeur du texte, elle naît avec le don de la Torah. Et ça aussi, c'est une chose qui est absolument extraordinaire, c'est qu'avec le don de la Torah, apparaît aussi l'explication de la Torah. Et ça, c'est tout à fait fondamental pour celles et ceux qui disent que la Torah orale a été inventée par les rabbins. Pas du tout. On a un texte d'un sarcophage d'un roi phénicien, Eshmenazar, qui a été exhumé par un archéologue français. Il y a là-bas un texte de 50 lignes. Il y a plus de 250 explications pour comprendre les mots eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a ici un texte qui est contemporain de l'apparition du peuple juif sur la scène, avec des écritures phéniciennes, pas d'explication orale, en même temps que l'explication du texte écrit, au moment où ce texte écrit a été écrit, donc on ne sait pas ce qu'il dit. Par contre, la Torah écrite, oui, on sait ce qu'elle dit, parce que la Torah orale a été donnée en même temps que la Torah écrite. Le dictionnaire de cette Torah a été donné en même temps. Ça, c'est ce qui va se jouer aussi au moment du don de la Torah. Et donc, à Shavuot, on revit tout ça. Alors, c'est le moment de prier, pour demander à Hachem d'abord de nous permettre d'étudier la Torah et de la connaître, donc de connaître en quelque sorte notre passeport pour l'éternité, de connaître notre lien avec Hachem. C'est le moment de prier pour avoir une descendance juste, on devait le faire la veille de Rosh Chodesh Nissan où il y a la tefila du Shla Kadosh, c'est une ségoula mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est le moment de prier pour avoir des enfants de Tzadikim, car comme disait, c'est paradoxal de la citer maintenant, mais je ne résiste pas à la volonté, à l'humour de ce paradoxe, Golda Meir disait, ce qui est important, ce n'est pas si je suis juif, mais si mes petits-enfants seront juifs. Et bien effectivement, ce qui est important, ce n'est pas si on fait la Torah, c'est si nos petits-enfants, effectivement, la feront, et si on est capable de les éduquer. Et puis, last but not least, dernier point, on terminera notre réflexion sur ce point-là, on va manger du laitage le soir de Shavuot. Pourquoi ? Parce que quand les Bnei Israël ont reçu la Torah, ils n'avaient pas encore appris les lois de Shrita, donc ils ne pouvaient manger que du lait. Et en plus, il fallait qu'ils mangent dans des ustensiles, mais la Torah va nous expliquer que certains ustensiles devaient tremper au mikvé, mais ils vont utiliser de manière aléatoire, enfin de manière provisoire, donc des ustensiles, et donc ils vont manger dans des ustensiles provisoires du lait en attendant d'apprendre les lois de la Shrita. C'est la raison pour laquelle on mange des laitages le soir de Shavuot. N'en mangez pas trop et ne buvez pas trop de vin parce que ça endort et vous ne pourrez pas faire la veillée. Dernier conseil pratique lié à cette réflexion. Alors à toutes et à tous, eh bien je nous souhaite à tous de recevoir à nouveau la Torah, de nous lier à Hachem par ce lien extraordinaire qui s'appelle la Torah, qui est le lien que nous avons avec Hachem, qui est notre passeport donc pour l'éternité. Et bien, Hachem, qu'on mérite tous de guérir pour ceux qui ont des malades et qu'on puisse bénéficier d'une descendance d'enfants et de petits-enfants qui auront le même enthousiasme que nous à étudier la Torah et à la connaître et à la pratiquer. Chag Sameach.
Chag Sameach, Rav Mordechai Biton à Jérusalem. On vous souhaite encore une fois toutes les meilleures fêtes. Il y a le lait, mais il y a aussi les fleurs. Et sous votre contrôle, je dis qu'un petit bouquet de fleurs en rentrant, c'est pas mal, hein?
Ah non, on est dans l'année de Shemitah, ça fait plusieurs mois qu'on a oublié les fleurs. On n'y pense même plus, c'est tellement devenu une difficulté ici de trouver des fleurs avec un hercher de Shemitah correct. Alors bon,
pas de fleurs. Bah alors justement, à raison de plus pour que nous ici en France, on peut le faire librement, faire plaisir quand on rentre à la maison, c'est toujours une bonne idée. Rav Mordechai Biton, je vous remercie. Bonsoir à vous, Chag Sameach et Shabbat Shalom.
Chag Sameach, Shabbat Shalom.
Et Maria Chadré est en ligne avec nous à présent. Bonsoir Maria Shabbat Shalom, Chag Sameach.
Shabbat Shalom et Chag Sameach.
Mais d'ailleurs, vous avez décidé de nous dire une troisième chose. Vous avez envie de nous dire Shana Tova. Alors, par quel extraordinaire. Vous allez nous dire, Shana Tova, aujourd'hui, veille de Shabbat et veille de Shavuot.
Ouais, voilà. J'ai décidé de vous souhaiter, et de façon absolument pas anachronique, de vous souhaiter une très très bonne nouvelle année. Alors bien sûr, je m'appuie sur un passage du Talmud, le Talmud Rosh Hashanah, qui évoque qu'il y a quatre temps dans l'année avec un jugement particulier. Mais parmi ces quatre temps-là, il y en a deux qui sont nommés Rosh Hashanah. Il y a deux temps qui ont vraiment comme fonction d'être des débuts d'année. Alors, évidemment, le Rosh Hashanah de Tishri, que nous connaissons tous, et la pomme et le miel, voilà, où on prie pour notre vie, Zochenu l'Echaim, qu'on puisse être en vie, qu'on puisse pouvoir continuer à œuvrer, à remplir notre mission sur Terre. Et un autre Rosh Hashanah, beaucoup moins connu, en tout cas sous la forme de Rosh Hashanah, c'est Shavuot qui arrive donc à l'issue du Shabbat. Shavuot est considéré comme étant un début d'année. Alors, début d'année de quoi ? Eh bien, si le début d'année de Tishri était le début d'année, je dirais, du corps, la parnassa, la vie, la santé, tout ce que nous allons faire, toutes les traces que nous allons laisser dans ce monde qui est un monde sensible, un monde visible, quantifiable, eh bien, nous savons évidemment que notre corps est animé d'une âme qui définit l'essentiel de ce que nous sommes. Et le Rosh Hashanah de l'âme, eh bien, c'est à Shavuot. C'est à ce moment-là, j'ai presque envie de dire, de résurrection, à ce moment-là où notre âme se remplit à nouveau, chaque année. Hein, il faut bien le préciser, chaque année, nous sommes au pied du Sinaï. Dès qu'arrive le 50e jour après la sortie d'Égypte, nous nous trouvons au pied du Sinaï et nous nous laissons imprégner, fertiliser par la Torah. Alors, ce qui est écrit dans le Talmud Rosh Hashanah, c'est que Atzeret, c'est le nom que donne le Talmud à la fête de Shavuot, eh bien, c'est le moment où Dieu va décider des fruits de l'arbre. C'est-à-dire, à propos de tous les arbres, combien de fruits vont être produits. Et alors, il s'agit évidemment, au-delà des arbres réels et des fruits réels, il s'agit ici d'une splendide métaphore concernant nos fruits, concernant nos productions. Vous connaissez ce fameux verset qui, dans la Torah qui dit « Qui a Adam et sa sadé, l'homme est-elle un arbre des champs ?» Alors, dans quelle mesure ? Eh bien, en réalité, nous avons un capital temps sur Terre, hein, 120 ans. Et notre corps est un corps qui s'use, est un corps qui s'use. Et notre âme est dans une production comme un arbre qui, son capital, explique Rav Shapira, qui reste là, le tronc, les feuilles, les branches, etc. Et régulièrement, chaque année, il va produire encore et encore. Et donc, nous avons souhaité réfléchir ce soir-là sur le thème suivant, peut-on être pratiquant sans vivre dans la contrainte ? Et alors, ça leur a beaucoup, beaucoup parlé, ce thème, parce qu'évidemment, tout le monde... On aime la Torah, on aime être juif, on aime Israël, on aime notre identité. Enfin, dès qu'il s'agit d'une obligation, d'une contrainte, ça devient beaucoup, beaucoup plus difficile. Et alors, du coup, j'ai vraiment laissé libre cours à la parole chez ces jeunes filles. Elles ont pu s'exprimer et exprimer le fait que finalement, autour de la pratique, eh bien, on se focalise beaucoup sur l'aspect contrainte, beaucoup plus, donc tout ce qui est interdit, tout ce qu'il ne faut pas faire, ne pas manger des aliments interdits, ne pas profaner le Shabbat, etc. Et beaucoup moins sur toutes les énergies, sur toutes ces productions infinies qui sont générées à l'intérieur de nous du fait de notre Torah. Et puis, de cette réunion, de ces débats et de ces échanges, sortait quand même une certaine, je dirais, une frustration importante chez les jeunes, autour de la frustration, autour de la difficulté à mettre en place une pratique de la Torah et des mitzvot. Et puis, nous, on a évoqué bien sûr ce fameux texte extrêmement connu de la Gemara concernant les tables de la loi, sur lequel est écrit donc, que les tables sont gravées dans la pierre, Harut à la Luchot, les tables de la loi, c'était vraiment des lettres gravées dans la pierre. Et nous connaissons bien ce texte de nos sages qui disent « Ne lis pas gravé, mais lis Herut », non pas Harut gravé, mais Herut qui veut dire libre, des tables de la loi qui te rendent libre. Donc, c'est bien sûr le contraire de la contrainte, et nous avons essayé un petit peu de réfléchir cette notion de liberté à travers les contraintes que nous choisissons d'avoir, de ne pas avoir à lutter contre, en permanence contre un choix que nous avons à faire en fixant dans la pierre eh bien, les frontières de notre être, les frontières de notre existence, les frontières de nos réalisations. Les frontières, elles existent, et la Torah a fixé des frontières, et donc ces frontières sont libératrices, dans le sens où elles nous permettent un domaine, un espace dans lequel nous pouvons vraiment librement développer et dévoiler toutes les étincelles divines qui sont à l'intérieur de nous et produire ce que nous avons à produire et remplir nos missions. Donc nous étions vraiment dans une élaboration et perdurer malgré tout cet arrière-goût, ce sentiment-là quand même de « Ah, la contrainte !» La contrainte est difficile et finalement, on résume tellement la Torah à sa partie contraignante et beaucoup moins à sa partie joie, bonheur, réalisation, fertilité, etc. Et là, une des jeunes filles qui était jusque-là absolument silencieuse prend la parole et dit « Écoutez, moi aussi je vais apporter ma pierre à l'édifice. J'ai bien entendu tout ce que vous disiez sur la souffrance et la difficulté de la contrainte, mais moi je veux vous dire que je suis ici parce que je suis dans une perspective de conversion. Je suis en voie de conversion. Je suis issue d'une maman catholique et d'un papa musulman. Et je vous entends et je suis ébahie. » Et alors, en fait, à ce moment-là, on a assisté, j'ai envie de dire, à un mini Matan Torah. Parce que, tout simplement, je crois que quand on est dans la Torah et qu'on manque de recul et on oublie de regarder finalement tout ce que la Torah génère à l'intérieur de nous, tout ce qu'elle fonde en nous, il nous manque ce recul peut-être qui est contenu à l'intérieur du converti, qui lui, de l'extérieur, alors dans le cas de cette personne, elle avait connu d'autres d'autres croyances, elle avait été éduquée dans d'autres croyances, et je la cite parce que, je vous dis, c'est un mini Matan Torah, parce que d'abord, le don de la Torah se passe durant la paracha d'Yitro, Yitro, beau-père de Moshe, qui est un grand converti parmi les nations. Et puis, bien sûr, on va lire le livre de Ruth. Ruth, peut-être la plus célèbre des converties. Et il m'a semblé à ce moment-là, c'est pour ça que je vous partage cette anecdote, vraiment, finalement, je crois que la vraie réponse, je pouvais continuer à philosopher longtemps avec les personnes présentes sur cette idée de liberté de contrainte qui nous libère. Mais finalement, je crois que la plus belle des réponses, c'était peut-être la réponse de cette jeune femme en voie de conversion qui disait « Mais vous imaginez pas à quel point j'ai un appétit extraordinaire pour tout ce qui est écrit dans la Torah, pour toutes les coutumes, pour toutes les mitzvot, à quel point il a été libérateur pour moi de découvrir ne serait-ce que les brachot que nous faisons sur chaque aliment. » Et donc, je pense que vote, c'est un bel hommage à faire sur votre antenne, Bernard, à toutes ces personnes que je rencontre très souvent dans mes cours, qui rejoignent les rangs de la Torah et du judaïsme, ou qui ont rejoint. Il y en a un grand nombre que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans ma vie. Et à chaque fois, je crois qu'ils nous apportent cette fraîcheur. On pourrait aussi parler du Baal Teshuva, qui apporte également cette fraîcheur, qui rentre avec beaucoup d'émotion à l'intérieur d'une vie qui pourrait avoir l'air d'être très contraignante. Et finalement, n'oublions pas ce que la Torah va nous donner à Shavuot. Eh bien, c'est la possibilité de nous redéfinir comme étant un arbre fruitier, c'est-à-dire comme un arbre capable de donner, de produire encore et encore et encore des nouveaux fruits sans arrêt durant toutes nos années, toute notre vie, afin de pouvoir mener au mieux notre mission. Et nous avons ici la chance de recevoir une Torah qui est rien d'autre qu'un cadeau et qu'un agent de fertilité extraordinaire dans notre existence.
Eh bien, on va y penser, en effet. Et en vous écoutant, je me disais, tu sais, passer par exemple une super soirée avec quelqu'un de merveilleux, c'est génial. Et voilà, et il n'y a pas de contrainte, puisque je vous écoutais. Mais tu sais, avoir un enfant tous les matins, tous les matins, tous les matins, c'est une contrainte, mais c'est un bonheur que seul celui qui a connu savoir et peut comprendre ce qu'on dit. C'est un peu aussi pareil avec la prière. Tant que tu n'as pas essayé de voir que voilà, c'est rentré dans un autre cadre, tu comprends pas. Voilà, c'est ce que je... Excusez-moi, ça ne vole pas très haut, mais c'est ce que je pensais.
Non, c'est vrai, ce que vous dites est vrai dans tous les domaines. Le mariage, c'est rentré dans les frontières mariage, d'un mariage, une forme de contrainte, mais qui est l'existence, enfin le lieu de tous les bonheurs. Donc, en réalité, on ne peut pas faire de raccourci par rapport à ce que nous appelons la contrainte de l'extérieur. De l'extérieur, elle s'appelle contrainte, mais je crois que de l'intérieur, on peut parler de fertilité.
Maria Chadrez, je vous remercie. Je vous souhaite tout à la fois Shabbat Shalom et Chag Sameach.
Chag Sameach, Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shabbat Shalom et Chag Sameach. Shem lo yivne bayit, shalom leivoy naboyim, Hashem lo yishmorich, shav shokat shoymay. Yim Hashem lo yivne bayit, shalom leivoy naboyim, Hashem lo yishmorich, shav shokat shoymay.